La Sociale Le Mag, un podcast de la Cour de cassation. La jurisprudence de la Chambre sociale, racontée par ceux qui la font. Avec les conseillers
Florence Olivier
et Emmanuel Chiron. Avant de faire un focus sur deux arrêts du 22 novembre 2023 que nous décrypterons ensemble et qui traitent de la recevabilité des actions des organisations syndicales, nous commençons par évoquer l'actualité avec trois décisions de la Cour de cassation. Les deux premières, du 25 octobre 2023, portent sur la contestation des avis d'inaptitude. La troisième, du 29 novembre 2023, concerne la nullité d'un licenciement dont la convocation a été adressée pendant la période absolue de protection de maternité. Commençons par les deux arrêts du 25 octobre 2023 qui sont relatifs aux possibilités de contestation de l'avis d'inaptitude du médecin du travail.
La Cour de cassation était amenée, par les deux pourvois concernés, à se prononcer sur l'hypothèse spécifique dans laquelle un salarié fait valoir que l'avis d'inaptitude porte sur un autre poste que celui qu'il occupait réellement.
Dans le premier de ces deux arrêts, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a contesté ce licenciement en s'appuyant sur le fait que l'avis d'inaptitude ne portait pas sur le poste qu'il occupait à cette date. Le médecin du travail avait commis une erreur en mentionnant l'ancien poste qu'il occupait.
Ce qu'il est important de relever à ce stade est que cette contestation était soulevée au cours de la procédure portant sur le bien fondé du licenciement. Il ne s'agissait pas du recours spécifique prévu par l'article L4624-7 du Code du travail, qui permet la contestation des avis d'inaptitude prononcés par le médecin du travail dans les 15 jours de leur notification. Cette contestation doit être portée devant le Conseil de prud'homme, statuant selon la procédure accélérée au fond.
C'est d'ailleurs un recours qui a été abordé dans le podcast de janvier 2023, qui décryptait deux arrêts du 7 décembre 2022 et auxquels nos auditeurs pourront se référer.
Et justement, dans l'un de ces deux arrêts, la Cour de cassation avait jugé que, dès lors que l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail mentionne les voies et délais de recours et n'a fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de 15 jours, cet avis s'impose aux parties comme aux juges, et ce, que la contestation concerne les éléments purement médicaux ou l'étude de poste.
La question posée était de savoir si cette solution pouvait être transposée dans le cas d'une contestation de l'avis d'inaptitude en ce qu'il mentionne un poste différent de celui auquel était affecté le salarié au moment de la déclaration d'inaptitude.
Exactement. D'autant que ce n'était pas en ce sens que la Cour d'appel s'était prononcée. Elle avait en effet retenu que cette contestation n'entrait pas dans le champ d'application du recours direct contre l'avis d'inaptitude, dès lors que l'analyse du poste occupé, qui est déterminante pour le constat d'inaptitude, ne relèverait pas de la contestation des éléments de nature médicale.
Et au contraire, dans l'arrêt commenté, la Cour de cassation reprend la solution adoptée dans l'arrêt du 7 décembre 2022 et retient qu'un salarié ne peut contester devant les juges du fond la légitimité de son licenciement pour inaptitude, même si le médecin du travail a utilisé un terme inexact pour désigner son poste de travail.
On peut donc dire que, sur ce point, le transfert au Conseil de prud'homme par la loi du 8 août 2016 du recours porté préalablement devant l'inspecteur du travail n'a pas modifié les solutions apportées antérieurement. En effet, la Cour de cassation avait déjà décidé, le 18 février 2015, que même en cas d'inaptitude prononcée sur une qualification inappropriée, les avis du médecin du travail s'imposent au juge en l'absence de recours, recours qui était exercé à l'époque devant l'inspection du travail.
On voit bien le caractère fondamental du recours à l'encontre de l'avis d'inaptitude, qui, même s'il est enfermé dans un délai très restreint, est la seule modalité de remise en cause de l'avis du médecin du travail, et ce, que les critiques portent sur les éléments médicaux, sur la procédure suivie ou sur l'adéquation de l'avis avec le poste réellement occupé.
C'est d'ailleurs sur ce même recours que porte le deuxième arrêt du 25 octobre 2023, qui se prononce sur l'étendue des pouvoirs du Conseil de prud'homme lorsqu'il est saisi de cette contestation. Dans ce dossier, la salariée contestait également l'avis d'inaptitude, en faisant valoir que l'avis ne portait pas sur le poste qu'elle occupait réellement, mais elle avait, cette fois-ci, exercé le recours devant la juridiction prud'homale statuant en la forme des référés.
La Cour d'appel a annulé l'avis d'inaptitude en retenant qu'il était manifestement irrégulier, compte tenu de la référence erronée au poste occupé porté par le médecin du travail et de l'absence d'éléments pertinents dans la réponse qu'il apportait aux interrogations de la salariée, en éludant toute référence à la nature de l'emploi occupé ayant fait l'objet de l'étude de poste.
C'est ce motif que critiquait le pourvoi, qui contestait les déductions qu'avait tirées la Cour d'appel de cette erreur portant sur le poste occupé. Mais la Cour de cassation ne va pas se prononcer sur les mérites de ce moyen. En effet, la Cour d'appel s'était contentée, comme le demandait à titre principal la salariée, d'annuler l'avis d'inaptitude. Or, l'article L4624-7 grand 3 du Code du travail prévoit que le Conseil de prud'homme, et donc la Cour d'appel qui statue sur l'appel de sa décision, substitue sa décision à celle du médecin du travail. La Cour de cassation, relevant d'office le moyen tiré de la violation de ce texte, a donc prononcé la cassation de l'arrêt.
Ce qui veut donc dire que le Conseil de prud'homme puis la Cour d'appel doivent systématiquement se prononcer sur l'aptitude du salarié, même lorsque la contestation porte sur des questions de procédure ou des mentions de l'avis du médecin du travail.
C'est effectivement l'apport de cet arrêt. La Cour de cassation considère que cette question relève de l'office du juge saisi de ce recours. Il lui appartient donc, dans tous les cas, de dire si le salarié est apte ou non à son poste, au besoin, après avoir ordonné une mesure d'instruction. Dans le troisième arrêt abordé, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur l'étendue de la protection accordée par le Code du travail à l'occasion de la grossesse d'une salariée.
Cette protection recouvre deux périodes distinctes. La première période est une période de protection relative, qui s'applique dès le constat de grossesse jusqu'au départ en congé de maternité, puis pendant les 10 semaines suivant ce congé. Pendant ces périodes, le licenciement ne peut intervenir que dans des cas limitativement prévus par la loi, à savoir la faute grave de l'intéressé non liée à l'état de grossesse ou l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. La seconde période est une période de protection absolue, couvrant le congé de maternité et les congés payés pris immédiatement à la suite de ce congé. Pendant cette période, le contrat de travail est suspendu et toute rupture est interdite.
Et dans ce dossier, la salariée avait été convoquée, au cours de la période de protection absolue, à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, entretien qui avait eu lieu après la fin de cette période de protection, lors de sa reprise du travail après les congés payés.
Or, depuis un arrêt du 15 septembre 2010, la Cour de cassation, interprétant le texte de l'article L1225-4 du Code du travail à la lumière de l'article 10 de la directive 92-85 du 19 octobre 1992, décide à la suite de l'arrêt Paquet de la Cour de justice des communautés européennes du 11 octobre 2007 que la protection absolue prévue par ce texte englobe non seulement le licenciement de la femme enceinte pendant son congé maternité, mais également les mesures préparatoires à une telle décision.
La question posée était donc de savoir si la convocation à un entretien préalable était une mesure préparatoire au licenciement qui entraînerait la nullité de celui-ci.
Et c'est ce qu'a décidé la Cour de cassation dans l'arrêt commenté, en relevant que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement pendant la période de protection dont bénéficiait la salariée à l'issue du congé de maternité.
En effet, même si la Cour de cassation retient que la recherche de l'existence d'actes préparatoires au licenciement, prohibés pendant la période de protection de la salariée, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, elle contrôle toutefois les conséquences que ceux-ci tirent de ces constatations. Or, en l'espèce, à la différence de la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou de recherche de reclassement, qui ont pour objet le maintien dans l'emploi et ne constituent pas des mesures préparatoires, l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement engage la procédure de licenciement et traduit l'expression de la volonté de rupture du contrat de travail, même si elle n'est pas irrévocable.
Ce faisant, la Cour de cassation s'attache donc, conformément à l'arrêt Paquet, à rechercher si, à compter du moment où il a eu connaissance de la grossesse, l'employeur a effectué des démarches concrètes poursuivant l'objectif interdit par la directive du 19 octobre 1992, à savoir licencier une travailleuse en raison de son état de grossesse ou de la naissance d'un enfant. Et nous poursuivons la Sociale Le Mag avec notre décryptage qui porte sur deux arrêts du 22 novembre dernier. Ces arrêts sont relatifs à la recevabilité de l'action collective des organisations syndicales fondée sur une atteinte à l'égalité de traitement lorsqu'est sollicitée la régularisation de la situation individuelle des salariés.
Dans ces deux affaires, les syndicats agissaient sur le fondement du principe d'égalité de traitement pour obtenir, dans le premier dossier, des augmentations générales de salaire revalorisées et, dans le second, le paiement d'une prime de 13e mois à certains salariés qui n'en bénéficiaient pas.
Commençons par rappeler que le principe d'égalité de traitement interdit à un employeur, en matière de rémunération ou pour l'attribution d'un avantage, de traiter différemment des salariés placés dans une situation identique. La recevabilité de l'action collective d'un syndicat en matière d'égalité de traitement est admise depuis un arrêt du 12 février 2013 et le fondement des demandes ne posait pas de difficultés dans les arrêts du 22 novembre dernier.
Mais dans ces deux affaires, les employeurs contestaient l'existence d'un intérêt collectif des syndicats à agir. Le droit d'agir en justice des syndicats est pourtant expressément prévu par le Code du travail.
Effectivement, l'article L2132-3 prévoit que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et qu'ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Ainsi, pour être recevable, l'action exercée par le syndicat en son nom propre doit porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Cette action ne doit pas être confondue avec les actions en substitution prévues par le Code du travail, notamment en matière de discrimination ou de harcèlement moral ou sexuel. Ces actions en substitution permettent à une organisation syndicale représentative d'exercer une action en justice en faveur d'un salarié. L'action collective d'un syndicat n'est pas non plus une action de groupe prévue seulement pour les discriminations par les articles L1134-6 et suivants du Code du travail.
La difficulté est donc de déterminer, lorsqu'un syndicat forme une demande en justice, ce qui relève de l'action collective du syndicat et ce qui relève d'une action personnelle des salariés. Quel est le critère dégagé par la Cour de cassation pour déterminer si l'action du syndicat porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession ?
Dans le litige ayant donné lieu à l'arrêt de 2013, un syndicat demandait le paiement à l'avenir d'une prime de repas à l'ensemble des salariés. La Cour de cassation a considéré qu'il s'agissait d'une demande dont l'objet était collectif, puisqu'il n'était pas demandé au juge de faire une appréciation de la situation individuelle des salariés. Il n'était pas demandé au juge de condamner l'employeur au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées.
Ainsi, dans cet arrêt de 2013, le critère dégagé par la Cour de cassation pour dire que la demande du syndicat était recevable était que cette demande ne tendait pas au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées.
Absolument. Mais la Cour de cassation est allée plus loin dans un arrêt du 19 novembre 2014. Elle a déclaré recevable l'action collective du syndicat qui demandait le versement des primes prévues par une convention collective et qui demandait également de régulariser pour le passé la situation individuelle des salariés.
Toutefois, dans un arrêt du 14 décembre 2016, la Cour de cassation est revenue sur la possibilité pour un syndicat, au titre d'une action collective, de solliciter la régularisation individuelle de la situation des salariés.
Effectivement, il s'agissait d'un litige dans lequel le syndicat invoquait l'irrégularité de conventions prévoyant de forfaitiser la durée du travail. Précisons que pour être valable, la forfaitisation de la durée du travail doit être acceptée par le salarié et qu'une convention individuelle de forfait doit être établie par écrit.
Quelle position a été adoptée par la Cour de cassation dans cet arrêt du 14 décembre 2016 ?
La Cour de cassation a jugé que l'action des syndicats tendant à la reconnaissance de l'irrégularité de la mise en œuvre de dispositions conventionnelles en l'absence de formalisation d'une convention individuelle de forfait était recevable. Mais elle a jugé que n'étaient pas recevables les demandes des syndicats de déclarer inopposable aux salariés la convention irrégulière de forfait en heure. Elle a également jugé irrecevables les demandes tendant à faire dire que le décompte du temps de travail et le paiement des heures supplémentaires devaient être effectués selon le droit commun.
La Cour de cassation a confirmé cette position dans un arrêt du 7 septembre 2017, dans lequel le syndicat contestait le seuil de déclenchement des heures supplémentaires retenues par l'employeur pour des salariés soumis à un forfait horaire hebdomadaire et le montant des sommes prélevées par l'employeur au titre des cotisations sociales sur ces heures supplémentaires.
Oui, dans cet arrêt, elle a écarté la recevabilité des demandes du syndicat d'enjoindre à la société de remettre aux salariés concernés un décompte individuel précis des heures supplémentaires avec le montant des sommes dues au titre des cotisations indûment prélevées année par année.
Et cette orientation a aussi été confirmée dans un arrêt du 15 décembre 2021.
Tout à fait. Selon cet arrêt, un syndicat peut agir en justice pour contraindre un employeur à mettre fin à un dispositif irrégulier de recours au forfait en jour et pour le contraindre à satisfaire aux obligations conventionnelles de nature à assurer le respect des durées maximales de travail et des temps de repos. Mais un syndicat ne peut pas agir pour obtenir la nullité ou l'inopposabilité des conventions individuelles de forfait en jour des salariés concernés, ni pour obtenir que le décompte de leur temps de travail soit effectué selon les règles du droit commun.
Ces décisions ont été rendues dans des litiges où était en cause l'application de conventions de forfait en heure ou en jour, nécessitant des conventions individuelles. Est-ce que les solutions dégagées peuvent être généralisées ?
Oui, la Cour de cassation a adopté une jurisprudence similaire dans des arrêts récents. Ainsi, dans un arrêt du 30 mars 2022, ont été jugées irrecevables les demandes d'un syndicat tendant à la condamnation des employeurs à établir, à l'intention de l'association de retraite complémentaire, la liste des salariés concernés par une irrégularité portant sur les cotisations de retraite complémentaire et à régulariser leur situation. Et dans un arrêt rendu le 6 juillet 2022, la Cour de cassation énonce qu'un syndicat peut agir en justice pour contraindre un employeur à mettre fin à un dispositif irrégulier de prise des jours de repos. Toutefois, elle écarte la recevabilité de la demande de ce syndicat tendant à obtenir que les salariés concernés soient rétablis dans leurs droits, car cela impliquait de déterminer, pour chacun d'entre eux, le nombre exact de jours de repos que l'employeur a utilisés au titre des mesures irrégulières.
On voit ainsi que la jurisprudence sur la recevabilité des actions collectives des syndicats est stabilisée. Quel est donc l'apport des arrêts rendus le 22 novembre dernier ?
La réponse au pourvoi est l'occasion pour la Cour de cassation d'adopter une formulation de principe, distinguant plus précisément ce qui relève des actions individuelles des salariés et ce qui relève de l'intérêt collectif de la profession. Elle précise ce que peut demander le syndicat au titre de l'intérêt collectif pour l'avenir et le passé, sans empiéter sur la liberté personnelle des salariés. La Cour de cassation accepte que la demande vise le passé dès lors qu'elle ne porte que sur l'octroi au syndicat de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession. Elle admet également que le syndicat demande pour l'avenir qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte. En revanche, la possibilité pour le syndicat de demander au juge d'enjoindre à l'employeur de procéder à des régularisations de situations individuelles est écartée.
On voit qu'un syndicat peut agir, au nom de la défense de l'intérêt collectif de la profession, pour mettre fin à un dispositif irrégulier. En revanche, il ne peut pas solliciter la régularisation de la situation individuelle des salariés concernés. Et pour quel motif les actions qui tendent à la régularisation de la situation individuelle des salariés ne sont-elles pas ouvertes au syndicat ?
La Cour de cassation l'a expliqué dans un arrêt du 20 avril 2023, dans lequel elle a décidé de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'interprétation qu'elle fait de l'article L2132-3 du Code du travail. En effet, le Conseil constitutionnel a jugé dans une décision du 25 juillet 1989 que les modalités de mise en œuvre des prérogatives reconnues aux organisations syndicales doivent respecter la liberté personnelle du salarié, qui, comme la liberté syndicale, a valeur constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel a précisé qu'il est loisible au législateur de permettre à des organisations syndicales représentatives d'introduire une action en justice à l'effet non seulement d'intervenir spontanément dans la défense d'un salarié, mais aussi de promouvoir, à travers un cas individuel, une action collective. Toutefois, c'est à la condition que le salarié intéressé ait été mis à même de donner son assentiment en pleine connaissance de cause et qu'il puisse conserver la liberté de conduire personnellement la défense de ses intérêts et de mettre un terme à cette action.
Ainsi, l'action collective des syndicats trouve sa limite dans le droit individuel de chaque salarié d'agir ou non à l'encontre de l'employeur pour obtenir la régularisation de sa situation.
Oui, les salariés concernés par l'irrégularité dénoncée par le syndicat peuvent agir individuellement pour obtenir réparation et il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le délai de prescription de l'action en paiement de créance salariale ne commence à courir qu'à compter de l'issue de la procédure engagée par un syndicat devant la juridiction civile, ayant mis les salariés en mesure de connaître le statut collectif applicable.
Il faut avoir présent à l'esprit que, de toute façon, des régularisations individuelles pour le passé sont difficilement exécutables, et que le juge de l'exécution, devant la difficulté de déterminer si l'employeur a exécuté l'injonction du juge, notamment parce que le nombre de salariés concernés n'est souvent pas aisément déterminable, ne pourra pas utiliser les moyens de coercition que la loi sur les procédures civiles d'exécution lui accorde.
Les arrêts du 25 octobre, du 22 novembre et du 29 novembre 2023 peuvent être également retrouvés sur le site de la Cour de cassation avec les numéros de pourvoi 22-12-833, 22-18-303, 22-15-794, 22-11-238 et 22-14-807, ainsi qu'à la lettre de la Chambre sociale numéro 21 de septembre-octobre 2023 et numéro 22 de novembre-décembre 2023. Vous trouverez par ailleurs les références des arrêts cités dans la chronique sur le site internet de la Cour de cassation, rubrique kiosque.
Merci Florence.
À bientôt Emmanuel.